Bonjour et bienvenue au coin de la table, la chronique de Proxy Jeux qui démonte le jeu de rôle et le jeu de plateau et les jeux vidéo et tous les jeux, puisqu'on
Tous les
divague pas
jeux.
mal, tous les jeux. On est comme ça. Donc pour ce deuxième épisode de la saison, Guylaine nous a quittés, elle est partie vers d'autres horizons. Et du coup, comme nous ne sommes plus que deux, eh bien
Eh oui.
voilà, nous faisons donc une chronique sur les jeux qui se jouent à deux.
Eh bien, ça tombe plutôt bien. Enfin, Guylaine va croire que c'est pour ça qu'elle est plus là. Mais non, Guylaine, on pense à toi. D'ailleurs, retrouvez Guylaine sur Radio Rôliste, où elle continue à faire des chroniques de qualité, comme toujours. Bien entendu, vous la connaissez, c'est Guylaine. Donc, salut Guylaine.
Voilà. Salut Guylaine. Donc, jeu de, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Ben, moi, ce que je vois déjà, c'est que les jeux à deux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup, si on parle sur le côté plutôt jeu de société ou même pratique de jeu en général, il y en a depuis longtemps. Il y en a depuis très longtemps. Tu mentionnais tout à l'heure, effectivement, que dans l'historique des jeux, par exemple le jeu de Go, hein, qui date de quand même plusieurs siècles avant Jésus-Christ, en tout cas on a retrouvé des traces un petit peu floues là-dessus, bah, c'est un jeu qui se joue à deux. Les échecs, c'est un jeu qui se joue à deux. Donc il y a quand même une tradition de l'optique du duel dans les jeux de société, enfin dans les jeux traditionnels, qui est quand même assez forte. Et alors, pourquoi ça? C'est vrai que je saurais pas dire, parce que finalement, le format 2 à 2, où on se regarde un peu dans les yeux, ou alors on regarde le plateau, c'est quand même un truc qui est très particulier, hein.
Ouais. Alors c'est peut-être aussi parce que peut-être parce que jusqu'à une certaine époque, quand on était plus de deux, ah, c'est une idée qui me vient comme ça. Hein. Je pense qu'il faudrait peut-être demander à des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux, mais peut-être qu'à une certaine époque, tant qu'on n'est pas au moins trois ou quatre, on fait des jeux, on va dire tranquilles, posés autour d'une table, d'un thé, je sais pas, et qu'au-delà, les gens ont tendance plutôt, avaient peut-être plutôt tendance à se tourner vers des sports ou des jeux plus physiques.
Alors, de ce que je connais de la pratique du sport, c'est quelque chose qui s'est peut-être institutionnalisé assez tardivement, donc vers le 18e ou quoi. Et par contre, si c'est en termes enfin, de jeux sportifs, en tout cas de
Voilà.
jeux physiques,
Parce que
oui,
je
c'est
pense
peut-être.
déjà, ne serait-ce que les jeux olympiques, les différents jeux olympiques, l'entraînement en fait qui servait à l'entraînement des soldats en Grèce, entre autres, la lutte, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans le genre,
La lutte, c'est à deux aussi.
voilà, la lutte c'est à deux, j'ai envie de dire la pétanque, mais c'est beaucoup plus
Ah non.
récent et en plus c'est en équipe.
Ouais. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que aussi c'est quelque chose qui s'est vu au travers des différents, au travers de la géographie. C'est-à-dire que le shogi, c'est un jeu qui se joue à deux, le go à deux, les échecs à deux, le backgammon aussi, qui pour le coup est dans une zone géographique assez différente, pareil, se joue à deux.
Ouais.
Donc il y a quand même une tradition, et une tradition, enfin, je pense, qui a été beaucoup remise au goût du jour ces derniers temps
La
avec
voilée se joue aussi à deux.
la voilée. La voilée, oui, effectivement, la voilée se joue à deux aussi, donc peut-être un
Encore une
tout.
zone géographique différente.
Ouais, c'est effectivement très intéressant ça. Et en tout cas, enfin, moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est que j'ai l'impression que ça a été beaucoup remis au goût du jour ces dernières années. Enfin, en tout cas, si ce n'est goût du jour, enfin, c'est assez intéressant parce que d'un côté, je pense qu'on a plusieurs branches, hein, du jeu. Si on parle de jeux de société qui se sont développés, où il y a effectivement tous ces jeux qui sont plutôt des jeux accessibles, familial plus, des choses comme ça, des jeux plutôt experts de gestion de ressources. Et puis, au milieu de tout ça, il y a aussi une croissance, je trouve, du jeu à deux, avec bah, le succès de jeux comme Seven Wonders Duel, par exemple, qui est quand même un jeu qui est conçu fondamentalement pour se jouer à un nombre assez important, quoi, jusqu'à 7 voire 8 joueurs, et qui là se retrouve en version 2 joueurs et qui cartonne quand même pas mal, quoi.
Alors pour moi, ça soulève un point qui est super intéressant. Ça soulève deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec la recrudescence de jeux à deux. Je pense qu'on peut la corréler avec aussi la recrudescence de jeux de rôle narrativistes et autres, avec zéro préparation, très peu de préparation, où tu as beaucoup de game designers qui sont bah, des vieux de la vieille, des années 80, 90, qui aujourd'hui ont 30, 40, 50 ans et qui disent bah, maintenant j'ai une famille, j'ai un boulot, c'est un truc dont on a déjà parlé, j'ai pas le temps de préparer une campagne de donjon, j'ai pas le temps de sortir, machin. Et en plus, on se retrouve le soir avec mon compagnon, ma compagne. Et du coup, on a juste envie de faire un truc à deux pour la détente, etc. Donc, est-ce que ça peut être là-dessus?
Ben ça, c'est vrai, quand tu le dis maintenant,
C'est
il y
une
a un.
contrainte, y a une contrainte un peu sociale quelque part.
Ben, il y a une contrainte sociale, effectivement, ou peut-être que aussi que ça répond à une demande, parce que moi j'ai pas mal. Bon, je. spoiler alert, je suis le mec qui fait des jeux, hein, dans mon entourage d'amical, dans tous mes amis qui sont pas du tout du milieu du jeu, je suis the game guy. Et les gens, c'était juste pour dire un truc en anglais pour paraître un peu snob. Et les gens me demandent souvent, hey Aurélien, t'as pas des exemples de jeux? Et très souvent, j'ai un profil qui ressort, c'est des gens qui sont en couple, qui me demande, Aurélien, là, on aime bien le jeu avec mon compagnon, ma compagne, est-ce que tu connaîtrais pas des jeux à deux qui seraient sympas, par exemple? Et ça, c'est vrai que ça ressort pas mal, donc ça, du coup, je ressors les différents écudiques de ces dernières années, Sun Wonders Duel, Patchwork, Jaipur, etc. Et c'est, ouais, il y a peut-être une corrélation, ouais, sur une évolution d'usage au fur et à mesure.
Et ouais. La deuxième chose que ça m'évoque, un exemple très intéressant, c'est que je sais plus si le Seven Wonders of Jazz, il y a une règle alternative pour deux.
Oui.
Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, c'est que la part des jeux où il y a écrit de 2 à, en fait, en général, la version à deux joueurs, ils te disent oui, il faut pas faire la même chose, et trois quarts du temps, c'est moins intéressant. C'est moins bien. Donc en fait, quelque part, il y a une nécessité, en fait, de game design, une nécessité ludique de créer un jeu en prenant en compte le fait soit deux joueurs soit plus.
Et ce qui est intéressant, c'est la notion aussi de joueurs et de, bon, alors on peut rentrer un peu dans les techniques de game design, hein, sur les notions de symétrie et de gestion. Alors, typiquement, quand on prend des jeux comme notamment, il y a un truc qui est très important, c'est la place dans des jeux qui sont a priori symétriques. On n'a jamais vraiment de symétrie parce que déjà on a un premier joueur, et c'est vrai que ça va tout changer. Le jeu des échecs, quand on joue blanc ou quand on joue noir, ça est quand même assez différent au final, parce que le coup d'avance des blancs a une incidence assez directe sur le rythme du jeu, et qu'il faut que les noirs arrivent à rattraper d'une manière ou d'une autre.
Pas, en fonction des jeux, c'est pas toujours c'est pas toujours avantageux de jouer en premier.
Oui.
Hein, tu t'as l'occasion de faire le premier mouvement, mais quelque part le joueur adverse a l'occasion de pouvoir voir où tu vas en avance et de réagir en fonction d'eux.
Ouais, c'est pas tant un avantage qu'une caractéristique à prendre en compte au final.
Tandis que quand t'es premier joueur, bah tu t'es dans le flou, quoi. Tu fais un truc, tu dis bon, je vais tenter ça. En tout cas sur les jeux que tu connais pas déjà par cœur. Et même sur les jeux que tu connais par cœur, ben si tu connais pas ton adversaire, tu sais pas trop où est-ce que tu vas aller.
Et pour le coup, c'est vrai, effectivement. Et dans le cas où ça représente un avantage, il y a une technique de game design qui est assez rigolote. Je ne sais pas si tu t'en as entendu parler, c'est la technique du cut the pie. En gros, l'idée, c'est comme si tu partageais une tarte. Tu partages une tarte et c'est toi qui vas couper la tarte en deux parts. Donc tu vas dire, très bien, je vais couper la part de manière à moi garder 95% du gâteau et l'autre personne va en garder 5%, tant que t'as pas de notion sociale de la personne va te détester, etc. Bon, mais en dehors de ça, l'autre technique pour t'assurer que le partage de la tarte soit à peu près équitable, c'est que toi tu vas couper la tarte. Et ensuite, c'est l'autre personne, donc ton partenaire de tarte, en fait, au coin de la table, la chronique qui parle de tarte aussi, de cuisine. Donc voilà, c'est ton partenaire de tarte qui va choisir la part qu'il va prendre. Ouais. Donc, c'est assez rigolo parce que si tu fais ton partage 95-5, bah, du coup, l'autre personne va prendre la 95.
Voilà, donc t'as tout intérêt à faire des parts équitables.
Voilà, et donc là, la symbolique, ça serait... toi, tu vas jouer moi, je vais jouer le premier coup, mais malgré tout, c'est pas parce que je vais jouer le premier coup que je vais jouer la couleur que j'ai joué, en fait. C'est-à-dire, en gros, c'est pas vraiment applicable pour les échecs, mais je vais jouer le premier coup et ensuite mon adversaire décide s'il va jouer le coup, enfin, le rôle que moi j'ai assumé.
Un truc, rôle. C'est. Du coup, rien à voir avec les échecs, c'est Magic, c'est. Le premier joueur dont je joue en premier, mais du coup il pioche pas de cartes à son tour.
Oui, pour contrebalancer justement. Là.
Voilà. Et je sais que j'ai un ami qui refusait de jouer le premier du coup.
Ouais. Parce que tu n'as pas ta carte en plus.
Voilà.
Complètement.
Mais même si du coup il a un retard, c'est pas le premier à poser une créature, c'est pas le premier à jouer un sort, il a quand même cette carte en plus quoi.
Une autre technique, je pense, qui peut être utilisée, c'est la notion d'asymétrie. Un jeu qui va te parler, hein, c'est Raptor de Bruno Catala.
Là, j'avais justement noté avant de venir.
Voilà.
c'est un de mes jeux favoris dans les jeux à deux, en tout cas.
Ouais.
Et donc, vas-y, qu'est-ce que tu...
Non, mais du coup, c'était pour parler de l'asymétrie, mais je pense que tu le feras encore mieux que moi.
Ah, bah oui, alors pour ceux qui connaissent pas, Raptor, c'est un jeu donc, effectivement, de Bruno Catala et de Bruno Feduti. il me semble.
Oui.
C'est un jeu en duo. Et donc, un joueur joue une équipe de scientifiques armés de fusils à seringues hypodermiques et l'autre joueur joue une maman vélociraptor avec ses 5 bébés vélociraptors. Donc, le but des scientifiques, c'est de capturer 3 bébés raptors ou d'endormir complètement la maman en lui tirant 5 fois dessus. Et le but des raptors, c'est de faire que 3 bébés raptors s'échappent ou de manger tous les scientifiques. Sachant que effectivement, la mécanique de résolution est universelle. Donc chacun des cartes numérotées de 1 à 9, on en pioche 3. Chacun joue une carte, on les révèle en même temps. Et c'est là que ça devient asymétrique, c'est-à-dire que le joueur qui a la valeur la plus basse a droit de faire l'action qui est décrite par la carte, et c'est tout. Mmh. Le joueur qui a la carte la plus haute, donc a un nombre de points d'action qui est égal à la différence entre les deux cartes. Et donc en fait, c'est les actions qui sont décrites sur les cartes et les actions qui sont possibles par les points d'action de la différence des cartes sont complètement différentes dans un camp et dans l'autre.
Mmh, donc il y a une vraie asymétrie, quoi.
Voilà, même le placement de départ est complètement différent. Le joueur raptor doit placer un raptor sur chacune des tuiles du plateau. Mmh. Et le joueur scientifique doit commencer par les extrémités. Et c'est pareil, donc les raptors n'ont pas le droit des renforts, les scientifiques ont le droit des renforts. Mmh. Les scientifiques peuvent poser des obstacles, le raptor, la maman peut se déplacer dans les lignes droites complètes super rapidement, les scientifiques doivent se déplacer forcément case par case, sauf en utilisant une case d'action, une carte d'action qui leur permet de prendre une gifle, etc. etc.
Ouais, ouais. Ouais, y a vraiment une notion d'encerclement. Il y a un joueur qui est qui se sent encerclé et l'autre qui va pour, enfin voilà, les raptors ils sont quand même dans leur cage malgré tout, même si c'est des plus jeunes raptors, donc ils sont quand même assez balèzes.
C'est ça complètement. Si t'arrives à avoir suffisamment de points d'action en tant que joueur raptor, tu arrives à bouffer assez rapidement tout le monde vu que tu te déplaces en ligne droite et que hop, une action je me déplace, une action je bouffe quelqu'un, une action je me redéplace, une quatrième action je rebouffe quelqu'un. Ah, il y a déjà 2 scientifiques en moins sur le plateau, c'est la merde.
Et ça m'évoque en fait un concept assez intéressant, qui est le concept de méta. C'est-à-dire quand on joue à deux, moi j'ai l'impression que ce qui fait la caractéristique du jeu à deux dans beaucoup de cas, c'est que il y a pas de faux fuyant social. C'est-à-dire on est quand même face à son adversaire, on joue que avec lui et on peut pas. On a une réduction en fait du côté. On va aller prendre la partie d'autres joueurs. On va essayer de se noyer dans un anonymat pour faire des crasses ou des machins comme ça. Ça c'est pas possible parce que tout ce qu'on va faire va être interprété, connu, su, pris en main par son partenaire adversaire.
Ouais.
Y a un côté qui est plus direct, qui est plus dans le rapport. Et quelque part dans Raptor justement, je trouve qu'il y a il y a ce côté où on peut avoir une préférence par exemple pour est-ce que je préfère jouer Raptor, est-ce que je préfère jouer scientifique parce que les styles de jeu sont un peu différents. Mmh. Et peut y avoir un espèce de méta-jeu sur tiens, mais en fait moi j'ai très envie de jouer Raptor sauf que mon adversaire sait que je suis beaucoup plus fort en Raptor, donc est-ce que va y avoir une négociation, un pick-up, des machins comme ça, des règles qui font que cet avantage induit en fait par les spécificités du joueur vont être un petit peu modifiées.
C'est peut-être le truc qu'on va retrouver dans le jeu de combat.
Oui, complètement. Dans le jeu vidéo de combat, ouais. Ouais.
Est-ce que quand tu joues avec des potes, que toi tu doses Street Fighter comme un porc,
ouais,
que tout le monde te déteste à cause de ça, que tu joues, je sais pas, Ryu en main, tout le monde te déteste justement pour ça.
C'est chose qui arrive, ouais.
Que voilà, et que du coup t'invites tes potes et tu dis, du coup, comme je sais que c'est mon main et que voilà, et que vous me détestez, que machin, que vous avez pas envie de jouer si je le joue, je vais prendre un personnage que je maîtrise beaucoup moins bien.
Ouais,
spécifiquement
ouais,
pour ça. Et tu les doses quand même parce que tu connais plus le jeu.
Alors moi je peux t'assurer que quand je joue Honda, je pense qu'un enfant de 5 ans qui a jamais touché à Street Fighter peut me battre, il y a pas de souci quoi. Si il joue Ryu qui fait des Hadouken, ça passera très bien. Mais ouais, c'est intéressant effectivement la notion du jeu de combat avec la notion de pick-up, de draft dans les compétitions aussi, le côté ouais, je préférais, il y a par exemple des personnages qui sont trop forts donc ils vont être bannis. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand tu joues avec tes potes, si tu sais qu'il y a ce personnage qui est trop fort en compétition, si tu le joues ou si tes potes le jouent, tu sais que ça va induire quelque chose d'un peu différent quoi. Donc c'est assez fort. Et moi, je dirais qu'en fait, pour reparler un peu jeu de rôle, parce que des fois, on fait ça aussi dans la chronique, ça nous arrive. Moi, ça me fait penser à justement une réflexion que je vais un peu partager aussi suite à l'écoute d'un autre podcast, à savoir le podcast Ludologie. Salut l'équipe de Ludologie. Et qui avait fait un épisode notamment sur le jeu et l'intime. Et avec comme invité Morgane Régnier, qui est l'autrice du jeu Sur la route de Chrysopée. Voilà, qui est un jeu de rôle épistolaire de joueurs entre un maître alchimiste et son apprenti qui vont tous les deux aller sur la route de Chrysopée pour découvrir quelque part un épanouissement personnel, une émancipation, une illumination. Et donc le maître va rester chez lui et va écrire par correspondance son apprenti qui lui part sur les routes. Donc il va y avoir un lien qui va se faire entre les deux personnages, qui va aussi se renforcer, qui va se renforcer au fur et à mesure du voyage. Et ça se joue exclusivement à deux. Et ça, c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai une campagne de jeu qui va pas trop tarder à commencer avec quelqu'un. Et moi, je me suis posé la question, justement, de avec qui est-ce que je vais faire ça, quoi. Parce qu'il y a un côté où là, t'es directement en face avec, justement, la personne, même si t'es par lettre interposée. Ouais. Clairement, en plus, t'as un côté, tu vas écrire des choses, donc même si tu passes par un personnage, c'est une partie de toi qui va s'exprimer. Hein, c'est du jeu de rôle, mais dans le jeu de rôle, tu joues un rôle, mais c'est toi qui le joues.
C'est un jeu qui se jouait par épis solaire, ce que tu disais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que t'as la temporalité aussi complètement différente.
Oui. Oui.
Du coup, tu as le temps de te poser, tu as le temps de réfléchir, tu écris.
Ouais.
Ça change beaucoup de choses déjà.
Ouais.
Et le fait que ce soit à deux, ça renvoie, bon, évidemment, à toute la tradition.
La tradition.
Ça renvoie à toute la tradition du roman épistolaire.
Ouais.
Par exemple. Aux échanges et t'as plus le lien direct action-conséquence que t'as dans le jeu de rôle non plus. La tradition épistolaire dans la littérature, ça renvoie une notion aussi de témoignage. C'est souvent utilisé comme moyen de poser en fait la fiction dans la réalité.
Il y a un côté aussi, c'est un côté aussi, je pense, aussi, miroir. C'est-à-dire, les deux personnages vont être un peu le miroir l'un et l'autre. Mmh. Et c'est quelque chose qui, je pense, est assez, qui exerce une certaine fascination. Enfin, je pense que les romans épistolaires ont eu autant de succès pendant une certaine période, c'est parce qu'on avait la correspondance directe entre deux personnes qui se parlent directement, a priori sans artifice. Évidemment, c'est pas du tout vrai, mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'artifice parce que c'est juste une personne A qui s'exprime envers une personne B, quoi. Et sans avoir de cadre social particulier, en tout cas, un cadre social construit et personnel entre les deux personnes. Là où, quand on a...
Ça relève du privé.
Oui, ça relève du privé.
C'est l'intime, c'est du privé.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Mon côté qui est très...
Les liaisons dangereuses.
Les lettres dangereuses.
J'ai un mélange entre les lettres persanes et les liaisons dangereuses.
En même temps, le K au Scrabble, quand tu l'as, c'est un peu dangereux. T'es mal barré.
Alors, j'ai un K, un W. Je vais faire 225 points d'un mot, mais...
Kiwi.
Voilà.
Meilleur mot de la langue française pour le Scrabble.
Du coup, je vais enchaîner un petit peu sur un autre jeu aussi, un jeu de rôle qui se joue à deux. Alors le nom, est, moi je vais l'appeler Slay Me, Lay With Me. Mm-hmm. Ça s'écrit SLAY/W/ME.
Très bien, on va le mettre en commentaire dans le billet de blog, hein, vous inquiétez pas.
Voilà, le twist étant que, alors le jeu, j'ai lu un peu de tout et de rien, de que c'était sympa, que c'était nul, que voilà. Donc à voir se faire son idée, mais l'idée que je trouve intéressante, c'est qu'il y a un joueur qui joue toi et un joueur qui joue moi. Sachant que moi c'est le héros, en fait le héros d'une histoire, donc Sword and Sorcery, un peu dans une ambiance Conan, tout ça. Et que toi c'est à la fois l'amant et le monstre qui poursuit le héros.
D'accord.
Donc il y a ce côté,
c'est l'autre quoi.
Ouais, c'est l'autre. Donc c'est un jeu qui est censé être sans MJ, mais il y a quand même cette asymétrie qui est là. Voilà, donc il y a le héros qui vit des épopées, qui est fort, qui est intelligent, qui fait ce truc. Enfin, tu l'écris un peu comme tu veux, quoi, en fonction de l'idée que tu as en tête. Et d'un autre côté, tu as, bah voilà, t'as à la fois un antagoniste et un love interest qui sont joués par la même personne. Et donc, du coup, la même personne a les clés en même temps pour un peu ruiner la vie du héros, et le héros a toutes les clés pour s'en sortir, parce que c'est le héros, sinon ça serait pas drôle.
Donc quelque part, en fait, il y a un joueur qui va jouer les situations problématiques, quelque part. En tout cas, quand on a un roman où on suit un héros, il va y avoir des événements perturbateurs, voilà, comme on a appris dans nos cours en 6e. Et donc, en fait, il y a un joueur qui va jouer les éléments perturbateurs qui vont apparaître au héros. Ouais, quoi,
alors,
les
obstacles. Comme ça, dans la définition, ça ressemble vachement à une place de MJ.
Ouais.
Sauf que en fait ça se joue comme c'est le jeu se veut d'être un jeu entre guillemets sans MJ. Il y a une mécanique spécifique pour le joueur qui joue l'antagonisme qui n'est pas tu as tous les pouvoirs et tu fais ce que tu veux comme dans n'importe quel jeu de rôle classique quasiment. On est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. Ça me renvoie aussi à, bah du coup j'enchaîne sur les jeux romantiques et
Ouais.
un jeu notamment que Guylaine avait déjà cité qui est Breaking the Ice, donc un jeu de rôle pareil qui se joue en quelques heures, je crois, ou trois séances, ou qui se représente les trois premiers rendez-vous en fait d'un futur couple, ou en tout cas de personnes qui partent en rendez-vous.
Ouais, tout à fait, on est dans la tuer.
Ouais, et en fait, quand on cherche sur internet des jeux de rôle à deux joueurs, et ben on trouve énormément de jeux romantiques.
Ouais, justement, pour ce côté. Bah, c'est vrai que je pense que c'est un truc qui est très vite évoqué, en fait. C'est que deux personnes égale potentiellement proximité, c'est-à-dire il peut se passer des choses, personne ne le saura, et il peut y avoir une intimité aussi qui se crée. C'est ben justement pour la route de Chrysopée, c'est un truc qu'on se. Enfin, en tout cas, moi, l'imaginaire que j'en avais tout de suite, quand on parlait de l'intime, du privé, enfin, quand l'udologie du coup parlait du privé du jeu, de l'intimité, c'était vraiment le côté, bah, ouais, les deux personnages fondamentaux, c'est deux bah, love interest, comme tu disais, quoi, deux personnages qui ont une relation romantique ensemble, enfin, une relation amoureuse, quoi, ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, pas nécessairement. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est une image qu'on renvoie très vite, quoi, deux personnes, ce qui est assez intéressant d'ailleurs socialement de se dire que c'est un automatisme qu'on a comme ça.
On a un automatisme, ouais, à poser des relations. Ce qui est. C'est on voit dans le fandom de séries ou de trucs comme ça, c'est que tout le monde fait du shipping, genre ces deux personnages-là, le petit côté où ils prennent les poupées, ils les font s'embrasser, genre vas-y, maintenant tu t'embrasses et vous vous aimez jusqu'à la fin des temps. En attendant, les gens. Même parmi la grosse communauté geek qui voilà et qui se veut de l'épique, des machins comme ça, t'as quand même énormément de le réflexe va dire de poser du romantisme entre deux personnages comme ça. Et donc effectivement que derrière il y a tout un pan de jeu qui soit orienté dans ce sens, c'est peut-être pas tant une surprise que ça du coup. C'est peut-être voilà, il y a une volonté du romantisme, il y a une volonté de l'expression amoureuse. Ou sexuel ou autre, ou je ne sais pas ce que Freud en dit. Est-ce que Freud a écrit des trucs sur le jeu et sur la dimension sexuelle des échecs?
Ouh là là, ne me lance pas là-dessus, ça sera peut-être notre prochain sujet si on continue comme ça.
Donc, bon, sinon, à part ça, si on veut rester à parler du DR, au final, c'est pareil, une deuxième chose que tu vois quand tu cherches le jeu à deux joueurs, c'est que tu as toujours un petit malin pour dire, mais de toute façon, le JDR, tu peux jouer à deux tout le temps. Hein, tu donjons et dragons, tu fais un donjon et puis voilà, tu files plus de points de vie, plus de trucs et tout, et tu le fais quand même. Oui et non, parce que un combat à deux, ça peut être vite chiant, ou alors c'est pour ça que les gens ils jouent à du wargame plutôt qu'à du jeu de rôle
C'est ça.
comme ça. C'est quand t'es que deux, c'est soit l'un soit l'autre qui va être chiant, soit le RP va être chiant parce qu'au final vous êtes deux, il y en a un qui engage 5 rôles. Soit tu pars du principe, tu es un joueur tout seul, mais tu as deux, trois personnages. Ce qui peut être intéressant. Soit effectivement, oui, c'est les combats qui vont être relous parce que voilà, est-ce que tu es tout seul et que le mec en face, il en a 15 trucs, etc. Qui on peut régler que la question du tu peux avoir trois personnages, mais ça reste de la grosse rustine parce que l'intérêt du jeu de rôle, c'est quand même bah, le jeu de rôle et que chacun interprète un peu son truc et fait vivre Son personnage, hein, c'est ce qu'on avait déjà dit dans un podcast, c'est quand tu crées un personnage, tu t'y attaches, tu t'identifies. Quand il meurt, si tu as envie qu'il meure, eh ben, il meurt. Et dans ce cas-là, c'est fait, tu passes à autre chose. Et soit il y a le fameux jumeau
qui apparaît soudain.
Bah, ah, quelle chance. J'ai vu la lumière. Soit tu fais un personnage qui n'a rien à voir et ça fait partie du plaisir. Te dire, bon, bah voilà, mon moine timide, façon Christian Slater dans Le Nom de la Rose, il est mort, bon bah je vais faire Conan.
Mais pour le coup, je pense que tu soulèves un point, c'est que quel est finalement l'intérêt qu'on peut trouver dans un jeu de joueurs. Hein. C'est que finalement, si on enlève le truc qui va changer, comme on disait, c'est la dimension sociale. On va être vraiment on va être à deux, donc on va pas avoir de dynamique de groupe, on va pas avoir de surprise par rapport à ce que les autres vont penser si ce n'est son partenaire de jeu. Ouais. A fortiori, s'il y a un joueur MJ, c'est un espèce de... Je pense qu'on se rapproche plutôt dans un combat PJ contre MJ d'un truc qui est une sorte de challenge cognitif. Donc on va être un peu dans une espèce de simulation de solitaire ou de wargame ou de choses comme ça.
Je pense que oui, de toute façon, à partir du moment où on diminue le nombre de joueurs, on est de plus en plus dans du compétitif.
Pas forcément, tu vois, avec des supports comme Chrysopée, justement.
Oui,
mais disons, effectivement, c'est
sur,
vrai que...
C'est une forme classique de jeu, je veux dire.
Ouais. Bah, ça devient difficile, je pense, de combiner à la fois la notion... social RP et la notion jouabilité cognitive.
C'est de toute façon avec les jeux type fiasco etc. Plus t'es nombreux, plus t'as de chance qu'il y ait une relance scénaristique. Donc moins t'es nombreux, à moins d'être avec quelqu'un que tu connais depuis 20 ans, avec qui vous avez des ressorts imaginatifs, que vous pouvez vous renvoyer la balle parce que voilà, etc. Comme certains scénaristes travaillent très très bien en groupe, ils sont très capables de se rebondir, se renvoyer la balle. Oui, alors tel personnage, ah oui, il va faire ça, ah oui, excellente idée, donc ça veut dire qu'on pourra engager sur tel personnage plus tard, etc.
Ouais.
Mais globalement, dès que tu es sur un du jeu un peu plus où il y a besoin d'avoir une relance quelque part, que plus t'es nombreux, alors dans une certaine limite, hein, la plupart des rôlistes diront au-dessus de 6, c'est le bordel. Le fameux 8 ça suffit ne fonctionne pas à tous les coups. C'est très bien parce que quand ça permet de tourner, ça permet de répartir la charge mentale de je suis le joueur qui va engager dans telle scène. Ça permet de faciliter le rôle du MJ qui je vais faire une scène de tel type, c'est tel joueur qui va être de toute façon c'est le rôle du MJ un petit peu, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de mettre tour à tour chaque joueur sur un piédestal.
Ouais.
Sous les projecteurs. Ce joueur-là, c'est le joueur social, c'est le mec sympa, voilà, donc on va faire une scène empathique avec lui. Lui, c'est l'entourloupeur de service, c'est aussi du social, etc. Mais donc, du coup, on va lui mettre un mec un peu shady en face, un type que t'as un peu envie d'arnaquer déjà de base. Et du coup, bah voilà, et machin, bon, bah lui, c'est un gros bourrin, donc on va mettre trois pécores à taper dessus, et puis voilà.
Et là, ça me fait penser à quelque chose, en fait, ça me fait penser à la notion de jeu coopératif à deux, au final, sur le côté compétitif.
Ah, tiens, je voulais poser la question, justement. Est-ce qu'il y a des jeux coopératifs à deux ?
Eh ben, justement, bah, en fait, tu peux jouer à beaucoup de jeux coopératifs à deux. Tu peux jouer à Pandémie à deux, tu peux jouer à ce que tu veux, en fait. Enfin, à part. Si, tu peux jouer. Non, tu peux jouer à Anabi à deux. Ok, parlons de Anabi. Donc, Anabi, jeu d'Antoine Boza, feu d'artifice, on voit pas nos cartes, etc.
Les cartes de l'adversaire, pour ceux qui savent pas.
Et on voit les cartes de l'adversaire.
Enfin, l'adversaire du copain.
Voilà, c'est ça. Donc, on voit les cartes de tous les autres joueurs, et quand on est deux, on voit les cartes que de son partenaire de jeu. Donc, c'est super intéressant parce que je sais pas si on a beaucoup parmi vous. Je sais pas si toi, tu as déjà joué à Anabi à deux.
Non.
Bah en fait c'est génial, pour le coup moi j'étais très dubitatif, enfin je savais pas en fait, c'est pas que j'étais dubitatif, c'est que je me demandais est-ce que l'expérience reste là, et parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus logique où on va se renvoyer la balle l'un et l'autre, et malgré tout moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à jouer à Anabi avec les gens avec qui j'ai joué, donc notamment avec mon ami Kevin. Donc Kevin, si t'entends ça, salut Kevin. Et c'était une expérience qui nous a, je pense, beaucoup marqué parce qu'il y avait un côté où on était ensemble en train de résoudre un challenge en essayant de se faire confiance l'un et l'autre, mais justement, encore une fois, hein, sans avoir le biais social de y a d'autres personnes, quoi. On est tous les deux face à notre feu d'artifice et qu'il faut qu'on se dise comment on fait pour que la tablée complète et donc nous deux arrivent à le faire, et pour ça, il faut qu'on soit vraiment dans un mode de bienveillance et d'écoute et d'adaptation à l'autre. sachant que on est vraiment que tous les deux, quoi. Et là-dessus, bah, j'ai deux autres petits exemples qui sont assez différents. Donc, je vais les annoncer tout de suite. Il y a le Bridge et il y a le Septième Continent. Eh oui, parce qu'on n'allait pas faire d'émission sans parler du Septième Continent, puisque c'est le jeu à la mode. Non, plus sérieusement, le Bridge. Pour ceux qui connaissent pas les règles du Bridge, donc le Bridge, on parle bien du jeu de cartes, hein, Immemorial. Eh bien, dans ce jeu, on va jouer à 2 contre 2. On joue à 2 contre 2. On a un autre partenaire de jeu, on a nos deux opposés. Et c'est un jeu qui est fondamentalement un jeu d'équipe, donc où on va jouer vraiment avec le partenaire qu'on a en face. On n'a pas droit à la communication, pas le droit à la parlante claire, un peu comme Anabi au final. On a un langage codé, donc qui est ce langage des enchères. On va faire des enchères pour évaluer en fait ensemble le nombre de plis qu'on va réussir à faire. Après, une fois qu'on va jouer, c'est un jeu de plis finalement assez classique, façon belote ou tarot, où on va avoir un ordre standard et où on va couper. Ça reste très complexe et très, très subtil. Hein, mais... Et donc, dans cette première partie, la partie des enchères, on a vraiment une codification qui va se faire. Une codification qui est censée se faire de manière très, très justement logique et cognitive, sans forcément avoir de notion de bluff ou d'adaptation à l'autre. Mais quelque part, il y a toujours un petit peu de ça qui va rentrer en compte malgré tout. C'est-à-dire qu'on va jouer en fonction de notre partenaire, des appels de notre partenaire, et c'est impossible de réussir à bien jouer au bridge en étant complètement individualiste. Ça n'a même pas de sens au final. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc une espèce de pseudo-coopération dans ce côté jeu à deux, quoi, jeu en équipe ponctuelle.
Pas mal de cartes qui se reposent un petit peu sur la communication non parlée directement par les cartes, en se disant bon, je vais jouer ça, donc mon partenaire va comprendre que ce que je veux qu'il fasse ou ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est ça.
Ouais.
Le bridge, c'est un jeu ancestral, on va dire, mais le games, des trucs comme ça, jeux qu'on joue au lycée, quoi.
Le tarot, au final, quand on joue à 4, au final.
Ouais. Et du coup, on n'est pas non plus sur des jeux qui se jouent pleinement à deux, on est sur des jeux en équipe.
Oui.
Et la question que je te posais, c'est par exemple, est-ce qu'il y a des jeux de coopération où vraiment on n'est que deux et c'est prévu comme ça. Parce que Pandémie, c'est pareil, j'aurais pu citer XCOM, etc.
D'accord, des jeux qui sont spécifiquement conçus pour être des jeux de coopération strictement à deux.
Ouais.
J'en connais pas. Pas à ma connaissance, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça. En revanche, ça serait un bon challenge design d'ailleurs. Tiens.
Ouais.
en revanche, le Septième Continent, justement, pour replacer le jeu, hein, c'est un jeu édité par Serious Pulp, qui a eu un gros succès ces derniers temps parce que c'est le Kickstarter de tous les records. À l'heure où je suis en train de parler, il y a la deuxième édition qui est en train de tomber sur Kickstarter là, qui a dépassé les 3 millions de dollars, alors que pourtant ils ont déjà fait un Kickstarter pour leur première édition qui a été livrée avec succès et qui est très intéressante. J'ai pu l'essayer. Et ouais. Et la première fois que j'ai vu le Septième Continent se jouer, c'était deux personnes qui jouaient ensemble. Et ensuite, moi, j'ai rejoint la table pour une deuxième partie. On a repris la partie 0 et on était 3. Du coup, j'ai pu observer le Septième Continent jouer à 2. Donc, hein, pour rappel, c'est un jeu coopératif, un peu d'exploration, façon le monde, les livres dont on est le héros, où on va révéler des cartes au fur et à mesure. Donc, c'est gargantuesque. Hein, ça, une partie, ça va durer, un scénario, ça va durer 10 heures, 12 heures, 20 heures. Un peu à la manière d'un Time Stories, par exemple, hein, de Space Cowboys. Et pour le coup, j'ai l'impression que le Septième Continent à deux, de ce que j'ai pu observer et aussi de mon hypothèse, on va dire, est un jeu qui a une saveur particulière comparé à des jeux comme Pandémie, Les Chevaliers de la Table Ronde ou des jeux comme ça, en termes de coopératif. Parce que on va avoir un côté qui est beaucoup plus contemplatif, je pense. Un côté où finalement on a des décisions, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner comme conséquence derrière. Tu me diras dans Pandémie non plus, mais en tout cas on peut plus facilement peut-être évaluer ce qui va se passer dans Pandémie que dans Septième Continent. Ça reste très intéressant parce qu'on va découvrir des choses ensemble et on va vraiment, on gagne ensemble, on perd ensemble, pareil tous les coopératifs, mais on même le tour de jeu est moins rigide que dans les Pandémie-like où on va avoir tu joues et ensuite tu pioches les cartes propagation, etc. Là, c'est un peu tu joues quand tu décides que tu joues, vous pouvez jouer à deux si vous voulez. Enfin, les règles sont très poreuses en fait là-dessus et il n'y a pas de truc très rigide et c'est vraiment marqué tel quel de quand un joueur estime que c'est à lui de jouer, il joue et il peut jouer soit tout seul, soit en demandant aux autres s'ils veulent jouer en même temps. Enfin, c'est assez fort. Dans cette contemplation et cette découverte, je trouve qu'il y a une conception de joueurs qui me semble plus intéressante que dans un Pandémie, quoi.
D'accord, bah, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc j'ai un peu du mal à voir ce dont tu veux parler. Donc je fais confiance.
Non, c'est, bah, c'est dur de toute façon de se, je pense, de se représenter le 7ème continent sans y avoir joué. Un peu comme Time Stories au final.
J'avoue, je suis complètement passé à côté. J'avais un peu d'autres impératifs ludiques sur les deux derniers mois là, et donc du coup je vois tout le monde en parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, le premier Kickstarter est sorti, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Il a été shippé il y a quoi, 6 mois, quelque chose dans ce goût-là. Donc finalement, il est revenu sur le devant de la scène là récemment pour un deuxième tour de piste.
Bah, je pense que ouais. Bah écoute, je pense qu'on peut faire une petite conclusion justement sur cette nouveauté.
Ouais.
On a abordé pas mal de trucs assez intéressants. Mmh. Et donc, on va se dire au revoir.
Et ben voilà, et puis vous dit...
Et puisqu'on a oublié de le dire au début de l'épisode, c'était Pascal et Aurélien.
Et oui, c'est nous.
Et donc, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et en attendant,
jouez bien.